Florence vécut une nuit de rêverie étrange et de sursauts inopportuns. Elle s'éveilla plus tôt qu'à l'accoutumée et tenta vainement de retrouver le sommeil. Finalement, elle se leva et descendit, la tête engourdie, se traînant lourdement. Elle entendit alors la voix de sa servante, une vraie potineuse dont l'expertise orale, transmise de génération en génération, semble désormais avoir disparu au profit des médias sociaux modernes. « Je vous assure, mademoiselle, même si vous persistez à l'infirmer, qu'à ce bal se trouvaient de jeunes nobles fort riches et fort élégants. On pouvait même les comparer à ceux de Londres, » disait-elle, forte de son appréciation, malgré n'avoir jamais quitté son village natal. « Certes, je n'ai eu guère l'occasion de m'y rendre régulièrement pour m'en assurer. En fait, jamais. Mais la confidente de mon amie m'a affirmé. Elle y va souvent, entourée de messieurs, ce qui est terriblement inconvenant. Il faudra que je vous en parle, qu'ils étaient dignes des joyaux de Londres. » Les jeunes sœurs Hugs portaient les tenues les plus récentes de Londres. Et bien sûr, elle sait ce qu'elle dit, évidemment. Ces jeunes filles étaient extrêmement jolies, obligeantes et si gracieuses. Eh bien, très chère Madame Brown, comment pouvez-vous être si confiante en votre confidente, qui dispose assurément d'un don inégalable pour l'exagération? Son interlocutrice se tut, observant un silence. L'allusion, pourtant peu subtile, passa totalement inaperçue. Madame Brown ne la comprit guère. Cette dernière n'était visiblement pas le crayon le plus aiguisé, si vous saisissez ce québécisme fort imagé. Ce bal très restreint n'était que pour nos proches. Pourtant, et il semble que mes sources concordent avec vos confidences, il est juste de reconnaître la finesse et l'élégance de la compagnie londonienne. Il est même regrettable que, dans de telles circonstances, notre demoiselle ait semblé terne. En théorie, dans un monde parfait, on apprécierait une personne non pas pour son physique agréable, mais pour ses qualités, la droiture de ses sentiments et son honnêteté. Certes, nous ne vivons pas en une telle utopie et la beauté demeure toujours l'un des attraits féminins très sollicités. Par ailleurs, être sage, intelligente ou avisée ne semble pas nécessairement attrayant pour les gentils hommes. À leur défense, les demoiselles elles-mêmes ne recherchent pas toujours la personnalité, l'humour ou la droiture. Ah ça non, même aujourd'hui, après des années de réflexion métaphysique et philosophique sur la nature de l'amour, les femmes continuent de privilégier les hommes beaux, riches et ambitieux à ceux moins attirants ou moins fortunés, et qui chercheraient l'amour auprès d'une personne étroite d'esprit, à l'apparence rebutante et mesquine. Certainement pas moi. Oh, je m'égare. Retournons donc au bavardage de couloir. Encore, sa légère fatigue, je crois, venait sans doute de l'ennui éprouvé à n'avoir attiré que peu. Elle a cependant su éveiller l'intérêt des Ware, qui, entendais-je, la trouvèrent fort plaisante. Mais elle échoua à charmer les Hugs. Dommage. Voilà de nobles demoiselles qui se méprennent assurément. Elle m'apparaît moins plaisante maintenant, dit Madame Brown pour apaiser sa conscience. Naturellement, il n'est jamais avisé de médire sur sa maîtresse en sa propre demeure, sauf si l'on souhaite explorer d'autres opportunités d'emploi. Car Miss Winston peut être aimable si l'on prend plaisir à vraiment la connaître. Bien que curieuse, l'orgueil et la dignité de Florence lui interdisaient d'écouter davantage. Craignant d'être remarquée et intriguée par M. Williams, dont la galanterie et la délicatesse, malgré sa taciturnité évidente, l'avaient tenue, l'intéressée décida d'interrompre la conversation. Sachant que ce n'était qu'une demi-vérité, ce n'était d'ailleurs guère noble de permettre la libre circulation des potins. Dans une communauté si restreinte et privée de passe-temps trépidants, on faisait ce qu'on pouvait avec ce qu'on avait. Ainsi, de nouveaux visages venus de Londres, particulièrement riches et élégants, ne pouvaient que nourrir les conversations pour les semaines, mois ou années à venir, faute de sujets plus divertissants. Miss Ryan, Madame Brown, je descendais, et j'ai surpris quelques bribes de votre échange. Vous êtes parvenu à éveiller ma curiosité. » Sa pensée resta inachevée, qui n'amenait guère, du moins le croyait-elle, la répartie. Mais heureusement, dans ce bas monde, le silence peut encourager les interlocuteurs à poursuivre la discussion sans que cela soit explicitement sollicité. Il est bien heureux que, dans certaines relations, notre contribution communicative ne soit pas indispensable. « Miss, si je puis dire, » commença Madame Brown, et même si elle ne le pouvait pas, son monologue se poursuivrait malgré tout. « Cette compagnie est fort riche, ça oui. On y retrouve plusieurs niveaux de richesse, même parmi eux. C'est drôle, n'est-ce pas, Miss Winston? Être riche ne suffit pas, il existe des degrés. Les jumeaux ont discuté avec les demoiselles Potter de la richesse des membres de la société. Avec ces vieilles filles, aucun secret ne reste bien gardé. Avant la fin de la soirée, tout le monde savait que M. Williams était, de loin, le plus riche. L'argent rend tout le monde bien plus agréable, c'est connu. Les demoiselles se sont alors montrées plus empressées. Pourtant, sa taciturnité et son apathie les ont vite rebutées. Il a été rapidement oublié, si vous voyez ce que je veux dire. Quant aux autres, ils restent tous très riches. Les trois frères Wahir reçoivent le rondelet montant de 4000 livres annuellement. Et imaginez combien ce sera au décès du père. Oh oui, Madame Brown l'avait ainsi formulé. Si ces propos choquent, j'en suis désolée. Peut-être ce roman ne vous convient pas. Vous pourriez alors l'utiliser pour allumer votre cheminée ou apprendre à votre enfant l'art du papier mâché en créant un bol difforme. Si vous souhaitez poursuivre, je vous invite, dans un premier temps, d'affronter le traumatisme et ne pas l'occulter. Promenez-vous dehors, entre voitures et CO2, puis noyez la chose dans un verre de vin ou un café, selon l'heure. Madame Brown poursuivit alors. « Un tel montant plaît à beaucoup et rend ces messieurs encore plus charmants qu'ils ne le sont déjà. Si l'une d'elles parvenait à saisir le cœur de l'un d'eux, elle ferait bien des jalouses. Quant aux demoiselles Hoggs, elles disposent d'une dot estimée à 20 000 livres. Cela pourrait bien tenter nos jeunes nobles de s'en amouracher, surtout si elles sont aussi jolies qu'on le dit. Monsieur Williams n'est pas pauvre, et c'est peu dire. C'est un doux euphémisme, se parla-t-elle à demi-voix. Pourtant, il m'a paru charmant et intelligent. Oh, peut-être pour vous ? Oui. Pour les autres demoiselles, il ne le fut point. Il a été muet et presque grossier. Entre nous, il détient une jolie indépendance financière, le rêve. On l'estime même à une centaine de milliers de livres et un domaine tout à lui. Ce n'est pas une mince affaire, ça, pour un futur mariage, par exemple. Florence fronça les sourcils, mais Madame Brown n'en saisit pas la signification. Un miracle se produisit. Elle n'eut plus rien à ajouter. Sceptique, comme à l'accoutumée pour toutes ses déclarations, Miss Winston les considéra peu fiables. Cette domestique possédait un fabuleux don pour exagérer et amplifier ses histoires. Pourtant, Madame Brown n'était pas une menteuse. C'était une femme qu'une autre vie aurait faite comédienne ou autrice pour enfants. Mais la vie, souvent cruelle, en ne permettant pas à la majorité d'entre nous d'atteindre nos aspirations, l'avait poussée, faute de choix, à devenir femme de chambre, rêveuse et commère. Florence les salua promptement. Les domestiques s'affairaient à préparer le déjeuner, mais ils n'étaient pas encore prêts. Elle jeta un regard rêveur vers l'extérieur. Le temps était d'une clémence inattendue. Après avoir choisi un livre, la jeune fille sortit rapidement pour cheminer vers son petit refuge. Cet endroit, surélevé au-delà des plaines et des propriétés des modestes fermiers de Pitoud, lui permettait d'observer leur activité. Certains s'affairaient à récolter leur culture. Il était certes inconvenant pour une jeune fille de son rang de s'installer ainsi à même le roc, et encore moins de ne pas être accompagnée. Mais Florence n'était pas une demoiselle comme il faut, car il ne faut pas être seule, assise sans une couverture de satin. Heureusement pour l'équilibre du monde, de tout temps et en toutes époques, il y eut et il y aura toujours des jeunes filles, comme il faut, qui ne s'assoient pas sur la terre. le vent charriant les prémices de l'hiver précoce, lui rappelait tristement que ce moment de solitude littéraire touchait bientôt à sa fin. Après une heure passée à lire, la faim se fit ressentir. Florence se leva rondement et fut transportée par la beauté du paysage. Ravie, elle n'y voyait que les silhouettes lointaines des agriculteurs. Aussi éloignées qu'elles fussent, elle savait qu'elle lui offrait l'anonymat. Se sentant libre, Florence en profita pour courir jusqu'à sa demeure. Mais en retrait, elle n'aperçut pas une silhouette masculine à cheval, suffisamment proche. Peut-être souhaitait-il se détendre par cet exercice, que la société à laquelle il était confiné ne pouvait lui autoriser. Toujours est-il qu'il la remarqua. Les deux uniques convives, Miss Winston et son père, se retrouvaient chaque jour au déjeuner, seul moment où ils étaient assurément en présence l'un de l'autre. Bien qu'ils eussent une affection mutuelle, la faible loquacité de l'un rendait pratiquement impossible une discussion approfondie. Il appréciait parfaitement le calme. En fait, il estimait tout passe-temps où les mots n'étaient point essentiels. Il admettait parfois la discussion s'ils avaient eu un hôte, le retour de son fils bien-aimé, ou une situation où on requérait l'amabilité et la plaisance. Dans ces cas particuliers, il devenait un parfait gentilhomme. Lors de réunions modestes où briller n'était guère indispensable, il se retirait en compagnie d'hommes aussi taciturnes que lui, pour discuter de la chasse ou de la météo, des sujets simples qui, autrefois, ne heurtaient aucune sensibilité. Avec une véritable adresse, il contournait les demoiselles et dames dont l'intérêt pour la conversation résidait dans l'expression d'émotion, toujours d'après sa perception. Et comme Florence était une jeune femme, censée être sous l'emprise de millions d'agitations complexes, M. Winston dialoguait peu avec elle. Miss Winston avait tenté, en vain, de combler le silence. Cependant, hormis en de rares occasions, M. Winston évitait les échanges prolongés. Il n'avait jamais vraiment eu l'opportunité de se familiariser avec le dialogue entre hommes et femmes. Déjà naturellement réservé avec les membres de son propre sexe, imaginez-le face à la gent féminine. Il abhorrait l'idée d'enchaîner une phrase après l'autre. La regrettée Madame Winston avait, quant à elle, été une femme d'un tempérament remarquable et d'une belle jovialité. À cette époque, bien qu'il fût discret, il avait su lui démontrer son affection et conquérir son cœur. Leur mariage, bien que court, avait été rempli de félicité et de joies immenses. Sa perte l'affligea profondément, mais son pragmatisme l'empêcha de chercher à se remarier ou même d'y réfléchir. Dans cet esprit peu communicatif, il interrogea Florence sur sa soirée. Peu intéressé par ses impressions, M. Winston voulait simplement savoir si la nourriture avait été goûteuse. Déjà absorbée par ses pensées, Florence répondit sans réfléchir. « Oh, père, je n'en sais rien. J'y rattache tant d'impressions contradictoires. »« Ah » fit-il, ne sachant comment répondre à ces émotions mystérieuses et sibyllines. « Chère lectrice, arrêtons-nous ici un instant. Je vous entends déjà penser. » Voilà un père bien indifférent aux pensées de sa fille, pourtant intelligente et vive, qui mérite d'être écoutée. Certes, on pourrait supposer que cette réaction trahissait un manque d'intérêt. En réalité, M. Winston ne saisissait simplement pas les subtilités affectives. Et dans sa candeur, plus naïve que mesquine, il ne percevait pas ce qu'il ne comprenait pas. La présence d'une figure féminine forte, bien ancrée dans son identité, aurait pu l'aider à corriger cette vision erronée. Mais voilà, avec son historique regrettable, cette idée ne l'a jamais été. Il ne faudrait pas s'affliger ni se tourmenter ainsi, surtout par une si splendide journée. Ne la trouvez-vous pas? Florence acquiesça d'un simple hochement de tête avant de se replonger dans son déjeuner avec mélancolie. Ce dialogue, presque impossible, la laissait désarmée. Chaque fois qu'elle prononçait une phrase susceptible d'introduire implicitement une émotion, il changeait inévitablement de sujet pour un thème peu conflictuel, le climat. Un homme du 21e siècle n'oserait sans doute plus l'aborder avec désinvolture, les enjeux environnementaux étant devenus une tare des conversations modernes, au même titre que la politique et la religion. Monsieur Winston pouvait rester silencieux toute une journée à cause de la pluie, puis s'extasier du soleil le lendemain en parlant seul, même en l'absence d'interlocuteur. Un domestique entra pour remettre une dépêche provenant de Hyder's Cottage. L'heure était encore matinale. Fébrile et curieuse, Miss Winston ouvrit l'enveloppe et lut. « Très chère Miss Winston, je prends la liberté de vous adresser cette dépêche afin de me confondre en excuses pour le comportement regrettable dont nous nous sommes rendus coupables. Je ne saurais trouver de justification autre que la distraction qu'a causée votre éblouissante présence. Mes cousins et moi serions très honorés que vous acceptiez de dîner en notre compagnie ce soir à 19h. Votre présence, nous l'espérons, serait une marque de bienveillance et un pas vers l'oubli de cet incident déplorable qui nous afflige. Veuillez agréer, Miss Winston, l'expression de mes salutations respectueuses et distinguées. Votre humble et dévoué voisin, etc. Gustave Tellman. » Il était étonnant que ces propos puissent provenir de Monsieur Tellman. Les phrases s'imbriquaient parfaitement en un texte au style remarquable. Cette lettre ressemblait à une composition mélodieuse, presque un chef-d'œuvre littéraire. Pourtant, il ne disposait point suffisamment d'esprit pour écrire ainsi. Du reste, même si un tiers gentilhomme avait participé à sa rédaction, songea-t-elle, la jeune fille ne voyait aucune raison raisonnable de refuser son invitation. La journée s'écoula très lentement. Le temps s'amuse à disparaître tranquillement lorsqu'on espère son prompt écoulement. Pour éviter tout commentaire désobligeant, elle se vêtit de sa toilette la plus ravissante et se para de bijoux. Contrairement à son usage habituel, elle se fit même coiffer et farder. Sans le savoir, elle se préparait à cette soirée, dans une direction opposée au bon goût.